Progressons tout doucement dans cette épître, Philippiens, chapitre 1. En fait, on va voir le début du chapitre 2 aujourd'hui. Mais le chapitre 2 doit être rattaché au chapitre 1. Vous savez qu'initialement, il n'y avait pas, bien sûr, de numérotation, de versets. Le chapitre doit être rattaché au chapitre 1. Au chapitre 1. Alors, pour avoir un peu de repères, donc dans cette épître, on avait vu, bon, après les deux premiers versets où l'apôtre Paul transmet ses salutations à l'église de Philippe, le verset 3, à partir du verset 3, il exprime sa reconnaissance à Dieu pour les Philippiens et sa joie qu'il a en pensant à eux, le souvenir qu'il a d'eux. Après, à partir du verset 9, il leur dit ce qu'il demande pour eux dans ses prières. Donc verset 9 jusqu'au verset 11. Et puis à partir du verset 12, donc on a un changement. L'apôtre Paul parle de lui-même. Il dit « Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Donc il parle de son emprisonnement, de ce que ça a eu comme conséquence, aussi de ses attentes, et même de peut-être la possibilité de voir ou non de nouveau les Philippiens. Et ça, c'est du verset 12 jusqu'au verset 26. Et puis, au verset 27, la section change et l'apôtre Paul amène ici la première exhortation qu'il donne aux Philippiens. Il dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. On avait vu que cela voulait dire de se conduire en citoyen du ciel, en citoyen des cieux. Se conduire d'une manière digne de l'évangile. Et du verset 27 jusqu'au chapitre 2, verset 18, on peut dire qu'il s'agit vraiment de la conduite digne de l'évangile. Et donc, verset 27, jusqu'au verset 30, l'apôtre Paul parle de cette conduite digne de l'évangile dans un aspect particulier. Il parle de l'adversité face aux ennemis à l'extérieur. Regardez un peu comment il dit cela. Il dit, verset 27, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Donc, il parle de cette unité que les chrétiens doivent avoir, mais face à l'adversité extérieure, face aux opposants à l'Évangile. Donc, c'est ce qu'il traite jusqu'au verset 30. Et puis, à partir du chapitre 2, verset 1, il va encore parler de l'unité, mais cette fois d'un autre aspect de l'unité des chrétiens. Donc, nous allons lire à partir du verset 2, et nous allons lire les quatre premiers versets. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 4. Il dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Donc, jusqu'ici, notre lecture pour aujourd'hui. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te demandons de nous donner des cœurs attentifs à ta parole, mais aussi des cœurs soumis pour mettre ta parole en pratique. Agis en chacun de nous par ton Esprit Saint, nous te prions. Amen. Donc, le titre de ce message ce matin, c'est « L'unité spirituelle dans l'Église locale ». On aurait pu donner à toute la section le titre « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile en recherchant l'unité spirituelle dans l'Église locale ». La première section, versets 21, 27 à 30, ce serait été « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile face aux adversités à l'extérieur ». Et là, c'est face aux difficultés, aux dissensions possibles à l'intérieur que l'apôtre Paul et le Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul veut exhorter les Philippiens et puis nous ce matin. L'unité des croyants dans l'Église est très importante. La santé spirituelle de l'Église locale, son témoignage et son rayonnement dépendent de cette unité et dans cette unité spirituelle de l'Église. Dans sa prière pour ses disciples, Jésus avait souligné cela. On a lu une section, je crois un frère a lu dans Jean chapitre 17 ce matin, cette unité pour laquelle le Seigneur Jésus a prié, Jean chapitre 17, verset 11, verset 20 et verset 23. Et quand on lit les épîtres de Paul, il y a beaucoup d'exhortations contre les divisions. Et donc beaucoup d'appels, on pourrait dire, à l'unité de l'Église. Et les versets 1 à 4 que nous venons de lire, dans ces versets-là, l'apôtre Paul exhorte fortement les Philippiens à maintenir et à travailler pour l'unité spirituelle au sein de l'Église. Mais comment il va le faire? Il va le faire en les interpellant sur trois choses. Premièrement, il va leur montrer, leur donner les motivations pour l'unité. On pourrait dire que ça, c'est le verset 1. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, s'il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes. Ça, c'est la base, le fondement, les motivations spirituelles pour l'unité spirituelle au sein de l'Église locale. Et puis deuxièmement, il va les interpeller sur la description même de cette unité spirituelle. Verset 2, il dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Et puis on pourrait dire enfin verset 3 à 4, c'est il va leur montrer comment promouvoir, il va faire donc la promotion, on pourrait dire, de l'unité spirituelle dans l'Église. Comment promouvoir pratiquement l'unité spirituelle dans l'Église locale? Eh bien, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, premièrement, les motivations pour l'unité spirituelle. L'unité spirituelle dépend de l'existence préalable de quelque chose. On ne fait pas l'unité sur rien. Et l'apôtre dit ici, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, s'il y a quelques consolations dans l'esprit, donc il est en train de dire ce qu'il doit y avoir pour que l'unité spirituelle soit possible. Il ne suffit pas, bien sûr, de parler d'unité des croyants, ni même d'aspirer à l'unité, ou de reconnaître les bienfaits de l'unité pour que l'unité existe. Il y a un fondement préalable à l'unité qui est indispensable dans l'Église locale. Et donc, l'apôtre Paul introduit ses motivations par des « si ». Vous avez remarqué cela? Il y a plusieurs fois, il dit « si, donc, il y a la consolation dans l'esprit, s'il y a la communion, s'il y a la miséricorde, la compassion, etc. » Donc, par quatre fois, il va souligner les choses qu'ils doivent avoir. Alors, bien sûr, le « si » qu'il introduit ici n'est pas un « si » de doute. Il ne dit pas « bon, je ne sais pas s'il y a chez vous de la communion, ou s'il y a de la consolation, ou s'il y a de la compassion et de la miséricorde, s'il y a de l'amour. » Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de les... Je crois que c'est une forme pour pouvoir les interpeller, les émouvoir, solliciter leur réflexion sur des réalités spirituelles. Donc le « si » n'introduit pas un doute, mais il veut les secouer, insister sur les choses. C'est comme si, par exemple, vous dites à quelqu'un, vous pouvez dire à quelqu'un, « Tu aimes ton épouse, alors fais ceci. » Pour elle, par exemple. Vous pouvez le dire comme ça. Mais vous pouvez dire, « Si tu aimes ton épouse, alors fais ceci pour elle. » Et le fait, quand vous dites, « Si tu aimes ton épouse, » ce n'est pas que vous mettez en doute son amour pour son épouse. Mais, oui, puisque tu l'aimes, et si tu l'aimes, un peu comme Satan a fait avec Jésus quand il dit, « Si tu es fils de Dieu, » il sait qu'il est fils de Dieu. Il l'a pas, hein, c'est pas une mise en doute de cela. Mais ça donne un poids particulier. Vous voyez, c'est pas pareil que... Donc, je pense que l'apôtre Paul veut leur faire prendre conscience de ces réalités. S'il y a quelque compassion, quelque consolation, quelque miséricorde, et s'il y a de l'amour, et ces choses, elles sont là, elles existent dans le chrétien. Alors, parce qu'elles sont là, voilà comment vous devez vous conduire. Et donc, il donne les motivations, on pourrait dire, spirituelles, pour l'unité spirituelle dans l'Église. Et il le fait donc en montrant ces réalités, quatre réalités ici. Il va commencer donc par exposer les réalités spirituelles avant d'arriver aux applications pratiques. Et c'est une méthode souvent chez l'apôtre Paul. Quand il veut exhorter, il commence par mettre en évidence les réalités spirituelles de l'union du chrétien avec Christ. Donc il parle premièrement donc des réalités de l'expérience du croyant avec Christ. C'est ce qu'il fait en Colossiens par exemple, lorsqu'il dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si donc vous êtes, il n'a pas dit que vous n'êtes pas, il dit maintenant, puisque vous l'êtes, voilà la réalité spirituelle que vous vivez, voilà l'union que vous avez avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection, alors voici les implications pratiques. La première réalité, c'est l'expérience de la consolation en Christ. La consolation désigne l'assistance, l'encouragement, on pourrait dire, à aller de l'avant. C'est le fait de conduire, d'accompagner, hein, d'être à côté pour accompagner. Et Paul exprime le fait que le chrétien, dans son union avec Christ, expérimente la consolation de Dieu. La Bible dit même que le Seigneur envoie son esprit, il est appelé le consolateur, afin qu'il soit toujours avec nous pour nous conduire. Et Paul dit, vous avez expérimenté cette consolation en Christ. Deuxièmement, il parle de l'expérience du soulagement dans l'amour de Dieu. Le chrétien fait aussi l'expérience du soulagement dans l'amour de Dieu. Et quel soulagement, n'est-ce pas, de se savoir aimé par Dieu, savoir qu'il est favorablement disposé à notre égard. Il y a un grand réconfort, une grande consolation dans cet amour. Par exemple, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, il dit ceci, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés, nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Vous voyez le lien entre cet amour et cette consolation. 1 Jean 3:1, il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigner. Donc, il montre à ses lecteurs, il les appelle à considérer l'amour de Dieu pour eux. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et donc, quand on est des enfants, on peut s'attendre à des choses particulières de la part de notre Père. Et donc, c'est une réalité que l'enfant de Dieu doit maintenir en son esprit. Jean 17, verset 23 a été lu tout à l'heure, je vais le relire. Hein. Jean 17, 23 dit ceci, et il y a ici un lien qui est établi entre l'amour et l'unité. Hein. Jean 17, verset 23, Jésus dit, verset 22 déjà, il dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. » Vous voyez ici le lien entre l'amour de Dieu et l'unité qui se manifeste chez les croyants. Qu'ils soient parfaitement un, et ça c'est le témoignage pour le monde que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. Donc vous voyez cette connexion que fait Jésus entre l'amour de Dieu et l'unité qui doit exister chez le croyant, et c'est la même chose, je pense, que l'apôtre Paul fait ici quand il dit, quand il parle du soulagement qu'il y a dans l'amour. Il rappelle à ses Philippiens de quel amour Dieu les a aimés pour attirer chercher les conséquences que cela doit avoir dans leur comportement et particulièrement dans l'unité. Et puis troisième réalité, eh bien, il parle de l'expérience de la communion de l'Esprit de Dieu. Tous les croyants en Christ font l'expérience de la communion de l'Esprit de Dieu. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes en communion avec Dieu et aussi en communion les uns avec les autres. ici. Et l'apôtre Paul synthétise, je pense, cela dans, quand il parle aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, vous vous rappelez, où il dit ceci, écoutez bien, il dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Et mais pour quelle raison, il dit? Pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Donc tous ceux qui sont en Christ ont été immergés, ont été plongés dans l'esprit de Dieu, baptisés dans un seul esprit, connaissent la communion de l'esprit de Dieu, mais pour former un seul corps, soit juif, soit grec. Vous voyez encore le lien entre cette communion de l'esprit et l'unité des croyants. Et les versets qui suivent, en Corinthiens chapitre 12, juste après ce verset, parlent de ce corps, le fait que nous sommes membres les uns des autres, qu'il ne doit pas y avoir, le verset 25 ou 26 dit qu'on ne doit pas y avoir, il ne doit pas y avoir de division dans les membres du corps. Et donc, ce que l'apôtre Paul met en tête ici, c'est vraiment la communion de l'esprit qui entraîne ici l'union et la communion, l'unité des croyants. Et puis quatrième expérience ici qu'il cite, eh bien il dit s'il y a quelque compassion et miséricorde, et bien sûr là il parle de la compassion, pense, et de la miséricorde de Dieu. La compassion évoque la tendresse, hein, mais le mot compassion aussi est parfois traduit par miséricorde, miséricorde par compassion. Donc on peut penser que l'apôtre Paul utilise un comme adjectif de l'autre ici. Et il se peut qu'il utilise ces deux mots-là, ou il utilise l'un pour qualifier vraiment l'autre. Par exemple, on trouve ça en Colossiens chapitre 3, verset 12, quand il dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. » Le mot « compassion » ici, c'est le mot qui est décrit par « entrailles ». C'est le même mot que Paul utilise au chapitre 1, verset 8, quand il dit « Je vous chéris tous » de la tendresse de Jésus-Christ, des entrailles de Jésus-Christ, de la compassion, de la miséricorde. C'est le même mot ici. Donc, vous voyez, ici, Paul utilise dans Colossiens les deux. On peut penser qu'il soit en train de faire ici la même chose quand il dit que les chrétiens ont expérimenté cette compassion miséricordieuse de Dieu. Il attire ainsi leur attention sur la réalité de l'affection qu'ils ont, la tendresse de la part de Dieu dont ils sont l'objet. Par exemple, en Éphésiens 2, versets 3 à 7, cela est très clairement exprimé, il dit « Nous tous aussi », il parle donc de ce que nous étions avant de connaître Christ, il dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Mais Dieu qui est riche en quoi ? En miséricorde. Vous voyez ici ? Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie par Jésus-Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble, il y a une notion d'unité ici, vous voyez, ensemble, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu qui est riche en miséricorde, c'est en vertu de sa miséricorde qu'il nous a rachetés. Et Paul dit, n'y a-t-il pas ici la compassion et la miséricorde de Dieu ? Voici les réalités dans lesquelles vous avez été plongés. Voici quelles sont les expériences que chaque chrétien fait de la part de Dieu. Et ça, c'est la motivation pour promouvoir vraiment l'unité pratique réelle au sein de l'Église. Donc cela, ce sont les réalités du croyant, de son union avec Christ. Et cela, il utilise non pas seulement pour leur dire, voici quelles sont les réalités que vous avez expérimentées en Christ, mais pour dire aussi qu'avec ces réalités, vous avez les ressources. Vous avez les ressources disponibles pour pouvoir vivre l'unité réelle dans l'Église. Ce que le Seigneur apporte n'est pas seulement une expérience avec lui. Et nous ne disons pas simplement « Nous sommes morts avec Christ, et ressuscité avec Christ, point. Mais nous disons aussi que nous avons, par cette mort et cette résurrection, par cette union en Christ, les ressources pour vivre tel que Christ nous demande de vivre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, attachez-vous aux choses d'en haut. Nous avons la possibilité de nous attacher aux choses d'en haut, de faire mourir ce qui, dans notre corps, est mortel, donc, et de, aussi, dans le passage qui nous intéresse, de vivre réellement l'unité. Puisque l'expérience de l'union avec Christ est faite, eh bien, vous pouvez et vous devez, c'est comme si l'apôtre Paul disait ça, vous pouvez et vous devez vivre l'expérience de l'unité spirituelle pratique dans l'Église. Puisque l'union avec Christ est faite, puisque c'est une réalité, vous avez le devoir de vivre l'expérience de l'unité spirituelle dans l'Église. Donc ça, c'est pour les motivations. Mais deuxièmement, ici, l'apôtre Paul donc, va donner une description de cette unité spirituelle. Donc après avoir exposé les réalités spirituelles que les Philippiens devraient considérer comme motivation aussi à l'unité, l'apôtre décrit la teneur de l'unité spirituelle. S'il nous était proposé, chers frères et sœurs, de définir l'unité spirituelle, un petit devoir, prenez un crayon, une feuille de papier, mais dans votre esprit seulement, hein, et puis essayez d'écrire une définition de l'unité spirituelle. Qu'est-ce que l'unité pour vous? Je suis sûr que nous aurions autant de définitions, de descriptions qu'il y a de personnes dans cette salle, hein. Parce que chacun, nous avons une petite idée de ce que doit être l'unité. Je pense que nous sommes plus, peut-être nous réfléchissons plus à ce que, comment elle doit se manifester. Mais qu'est-ce qu'elle est dans sa nature? Comment la décrire véritablement? Et c'est ce que l'apôtre Paul fait ici. Il dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et là, il donne une description de l'unité spirituelle. C'est-à-dire un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Avec ça, on a la définition de Paul. Alors, est-ce que ça veut dire que les chrétiens, pour être unis, doivent être comme des robots, des copies conformes les uns des autres? Même pensée, même sentiment, même amour et même âme. Alors, certainement que non, ici. Ce que Paul souligne ici, c'est que l'unité consiste en une unité de pensée et de mentalité. Et quand il parle de l'unité des croyants, même âme, même amour, même sentiment, même pensée, il parle d'une unité de mentalité, qu'on ait la même mentalité. Ah. C'est, par exemple, cela ressort bien de la dernière expression du verset 2, même pensée et même sentiment, qui veut dire les mêmes choses. Hein. C'est exactement la même chose. Et qu'est-ce que cela veut dire profondément? Le sens, c'est d'avoir une même pensée et d'avoir l'esprit fixé d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire aimer les mêmes choses, ça veut dire avoir l'esprit fixé d'une même manière. Plusieurs fois, l'apôtre Paul emploie cela dans cet épître, hein, chapitre 3, versets 15 et 16. Il dit « Ayons cette même pensée », il dit « Nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée et marchons de même pas. » D'accord ? On a la pensée orientée de la même manière. Philippiens 4, verset 2, il parle de deux femmes qui ont un différent entre elles, elles s'appellent Évodie et Saint-Tiche, vous vous rappelez de ça ? Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « J'exhorte Évodie et Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur, même orientation dans le Seigneur. » Et donc la perfection de l'unité découle de l'unité de pensée, de sentiment et de mentalité. Le fait d'avoir l'esprit fixé de la même manière, orienté dans la même direction et poursuivant le même but. Et on peut noter ici que le différent entre les deux femmes n'est pas mentionné. Quel était le problème entre Évodie et Saint-Tiche? Quels étaient les problèmes qu'ils avaient? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'étaient pas d'accord sur la couleur à mettre sur la moquette, j'en sais rien. Ou pas, sur un vêtement, je sais pas, il y avait un différent quelque part, on ne sait pas. Peut-être même il était théologique le différent aussi. Hein. On ne sait pas quel était le problème. Et je crois que le Saint-Esprit ne tient pas à ce que l'on sache quel était le problème, parce qu'en fait, le problème n'est jamais le problème. C'est-à-dire, ce que l'on présente comme étant le problème, le différent, la différence d'opinion n'est jamais un problème. Ce qui est un problème, c'est le fait de ne pas avoir un même sentiment et une même pensée. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il ne dit pas, j'exhorte Évodie et Saint-Tiche à être d'accord sur la couleur de ceci, ou à être d'accord sur comment on fait cela. D'accord. Il dit, je les exhorte à être d'accord sur les sentiments, sur la direction que doivent avoir les choses. Et vous savez, on confond souvent l'accord de sentiment et l'accord d'opinion. La Bible ne nous demande jamais d'avoir tous les mêmes opinions sur quelque chose. Tous la même conviction sur quelque chose. D'accord? Et donc, on peut avoir des opinions différentes et un même sentiment. Ça arrive souvent dans le couple. On n'est pas souvent d'accord sur beaucoup de choses. Mais on peut quand même avoir un même sentiment, une même pensée et marcher d'un même pas. Même si on a des opinions différentes sur un même sujet. Et donc l'apôtre, ici, quand il parle de cette unité de mentalité, il ne dit pas d'avoir que tous, pour avoir l'unité, il faut que tout le monde pense par exactement la même chose sur tous les sujets. Mais ils doivent s'accorder dans leur pensée. Ils doivent penser pareillement, c'est-à-dire pour que l'œuvre puisse aller dans une même et une bonne direction. Donc il ne s'agit pas de s'accorder sur les opinions ou les préférences, mais d'accorder les pensées au diapason de Jésus-Christ. Et comment être certain qu'on a les mêmes sentiments, les mêmes pensées, même amour, comme cela est dit dans l'Église primitive? Eh bien, c'est ce qu'il dit au verset 5. Si vous regardez au verset 5, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Comment être certain qu'on a tous les mêmes sentiments? Eh bien, c'est de chercher quels sont les sentiments qui sont en Jésus-Christ et de nous laisser pénétrer par ces sentiments. On est sûr qu'on aura les mêmes sentiments. Ne demande pas d'être d'accord, je le redis encore une fois, sur tout. Et l'apôtre Paul dit au Romains chapitre 12, verset 16, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. » Vous voyez, ce sont des choses qui font ici qu'on n'a pas les mêmes sentiments, c'est-à-dire on est attiré par ce qui est élevé, on oublie l'humilité, et on est sage à ses propres yeux. Ce que l'on fait est bien, ce que l'on fait est juste, ce que l'on fait est au top. Et il dit, non, ça c'est un obstacle au fait d'avoir des mêmes sentiments. Si chacun tire la couverture de son côté, pense que son idée est la meilleure que celle des autres, on ne va pas aller vers l'unité, on ne va pas aller vers le développement d'un même sentiment. Donc c'est important, je le souligne hein, ici, parfois on est convaincu de quelque chose et on pense qu'on veut nous arracher notre conviction. Jamais. On peut garder nos convictions sur des choses, on peut garder, sur des choses secondaires. Si on est convaincu que le salut c'est par les œuvres, ça c'est pas juste, c'est pas correct. Mais je parle sur des éléments secondaires, on peut avoir des convictions. On ne nous demande pas d'abandonner nos convictions. Dieu ne nous demande pas, et Paul ne demande pas, et vous dit, c'est-il d'abandonner leurs convictions. Il dit d'avoir les mêmes sentiments, même si parfois on a des opinions différentes. Et pourquoi insister sur cette unité de pensée et de sentiments? Parce que de cette pensée et de ces sentiments dépendent nos actions. D'abord, les choses se passent dans nos pensées, et après, elles se traduisent dans nos actions. Donc, si on n'a pas une même pensée, on aura des actions qui vont se confronter et aller les uns vers les autres. Si c'est notre idée, notre opinion, c'est ce qui doit dominer, c'est là notre pensée, eh bien, cela va se traduire dans nos actions. Et donc, c'est important, c'est ça que l'apôtre Paul dit que l'unité, c'est l'unité de mentalité, marcher dans la même direction et d'un même pas. C'est ce qu'il dit aux Corinthiens, il dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division, on parle de l'unité parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. Vous voyez encore, c'est exactement la même chose. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Hein, ici, même langage, à ne point avoir de division, parfaitement unis. Et comment on est parfaitement unis? Même esprit et même sentiment. Ça, c'est important à considérer ici. Et puis, troisièmement, ça c'était la description un peu que Paul donne de l'unité spirituelle. Mais troisièmement, il parle de la promotion pratique de l'unité spirituelle. Versets 3 et 4. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et donc, dans les versets 3 et 4, l'apôtre Paul identifie clairement ce qui peut être pratiquement un obstacle à l'unité spirituelle dans l'Église locale, et en même temps ce qui est propre à promouvoir l'unité spirituelle dans l'Église locale. Alors, on va d'abord voir les obstacles à l'unité. Ne faites rien, dit-il, par esprit de parti ou par vaine gloire. Là, il y a deux choses qu'il cite comme obstacle à l'unité. Premièrement, c'est l'esprit de parti. Et on avait déjà vu ça, vous voyez, au chapitre 1, verset 17, lorsque l'apôtre Paul disait « Certains prêchent Christ par envie et par esprit de parti », c'était la même chose, hein, ou par esprit de dispute, il avait dit ça. Et donc, on pourrait être, la vraie définition de cette expression, « esprit de parti », c'est « ambition égoïste ». Il dit « Ne faites rien par ambition égoïste ». On peut faire des choses en étant animé d'ambition égoïste. Donc à l'origine, le terme voulait dire faire quelque chose pour un salaire. C'est ça que ça veut dire, la signification originale. Et puis au fil du temps, ça a pris un sens, une connotation négative. Dans le Nouveau Testament, c'est toujours utilisé avec une connotation négative. Et un auteur dit ceci, il dit qu'on l'utilisait souvent pour qualifier le fait de poursuivre par des moyens injustes un poste politique et de s'y maintenir par motif d'intérêt. Et Paul dit que dans l'Église, on ne doit pas agir de cette manière-là. Faire ainsi, c'est aller contre l'unité spirituelle de l'Église. Si l'esprit de dispute décrit quelqu'un qui poursuit un but pour recevoir quelque chose, un salaire pour lui-même. Ce salaire n'est pas forcément un salaire numéraire, hein, de l'argent, mais peut-être un honneur ou quelque chose pour lui-même. Donc l'esprit de parti ou l'ambition égoïste peut atteindre n'importe quelle église. Ici, l'apôtre Paul parle d'une église ici qui lui procurait de la joie, n'est-ce pas? Il n'a pas beaucoup de reproches à faire à cette église. Seulement, ici, on voit que là, il y avait ce problème qui pouvait miner l'église de Philippe. Ce qui met en danger l'unité spirituelle de l'église, souvent, ce sont des personnes qui font ce qu'elles font dans l'Église en étant motivées par une ambition personnelle égoïste. Et vous voyez, l'apôtre Paul écrit ici à des chrétiens. Il ne parle même pas ici de fausse doctrine, il parle de relations. Comment, dans la manière même de servir dans l'Église, on peut être un vecteur de division. Dans la manière même de servir dans l'Église. L'ambition égoïste peut être la recherche d'une reconnaissance de mes capacités intellectuelles, ou de mes capacités théologiques, ou de mes capacités artistiques. Parfois, on désire juste le pupitre, on veut prêcher. Parfois, on veut juste être le premier, un peu comme Diotrephe, vous vous rappelez dans Jean chapitre 3, où il est dit que Diotrephe aimait à être le premier, donc il rejetait tout le monde, parce qu'il voulait toujours être considéré comme le premier. Et une telle attitude est un obstacle majeur à l'unité de l'Église. Il est important pour nous, chacun de nous individuellement, de nous ausculter pour savoir quelles sont les motivations pour lesquelles nous faisons les choses. Est-ce que nous les faisons vraiment pour servir le Seigneur et servir les autres? Ou est-ce que derrière cela, il y a une ambition égoïste, personnelle, qui nous dévore? Ça peut arriver à chacun d'entre nous, chacun d'entre nous. Ça peut nous arriver. Ici, l'apôtre Paul le dit aux Philippiens, ici, et ça peut arriver, bien sûr, à chacun d'entre nous, d'être animé de cette manière-là. Un deuxième obstacle, ici, il parle de la vaine gloire. Le terme désigne l'opinion exagérée, élevée que l'on a de soi-même. C'est une attitude qui existait certainement à l'église de Philippe, parce que l'apôtre Paul le souligne, et qui existe encore aujourd'hui dans les églises. Moi aussi, je sais faire ça. Moi aussi, je connais cela. Moi aussi, j'ai étudié. Moi aussi, je peux travailler aussi artistement. Moi aussi, je peux jouer. D'accord ? C'est des choses que nous pouvons dire parfois et qui soulignent que nous avons une attitude, une opinion élevée de nous-mêmes. Ce que la Bible appelle ici une vaine gloire. Il y a parfois, on peut se fâcher si notre opinion n'est pas mise en application. On peut dire, mais j'ai proposé ça, on ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'on estime que cette opinion qu'on avait devait être adoptée. Et on a, j'écoutais quelque chose, quelqu'un disait, on a parfois une très haute opinion de l'opinion que l'on a. C'est-à-dire notre opinion, on en a une haute, ça c'est mon opinion, et elle est à mettre au-dessus de toutes les autres. Alors bien sûr, on ne le dit pas comme ça. Mais si on se fâche, la réaction montre la réalité. On avait vu ça il y a quelques semaines auparavant. Hein. Les réactions que nous avons disent plus sur nos motivations que les actions que nous menons. Donc quand on réagit d'une manière qui montre qu'on n'est pas content parce que ce qu'on a proposé n'a pas été accepté, ou bien parce qu'on n'a pas été reconnu ou personne n'a vu, c'est que la motivation est qu'on en a certainement, on est animé certainement d'une vaine gloire. Ça, c'est un obstacle. Un troisième obstacle que l'apôtre Paul met en évidence, c'est l'égocentrisme. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il est en train de dire, mais la tendance naturelle pour l'homme, c'est de considérer lui-même et ses propres intérêts. Donc, il s'agit ici de ceux qui n'attachent de l'importance qu'à eux-mêmes et qu'à leurs propres intérêts. Ça, c'est un obstacle aussi à l'unité dans l'Église. Et donc, quels sont les tremplins pour l'unité? On a vu trois obstacles que l'apôtre Paul souligne ici, mais quels sont les tremplins? Eh bien, il donne un antidote redoutable. Au verset 3, il dit... je relis donc le verset Philippiens chapitre 1, verset 2, il dit « Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que quoi ici ? L'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Donc, le premier, si vous voulez, un antidote ici, c'est l'humilité. L'humilité. Voici l'antidote que l'apôtre Paul nous donne contre les trois poisons que nous venons de voir, que sont l'ambition égoïste, la vaine gloire et l'égocentrisme. L'humilité désigne ici le fait d'avoir une opinion humble de soi-même. C'est d'avoir le sens profond de sa petitesse. Dans le monde grec, autant en grec ici, le temps de l'apôtre Paul, l'humilité était considérée comme une faiblesse. C'était un caractère que l'on attribuait aux esclaves. Et il semble que même dans la littérature extra-biblique, on ne trouve même pas le mot parce que c'était pas considéré. Alors que dans l'Écriture, l'humilité a une grande importance. L'Écriture nous enseigne que l'humilité, c'est le ferment de l'unité, ce qui permet à l'unité de prendre dans une église. L'homme naturel n'est pas humble. Je vais vous apprendre une nouvelle, chers frères et sœurs. Vous n'êtes pas humble et moi non plus. Et tout ce que l'on fait, souvent, on le fait pour se mettre en avant. Je suis le meilleur. C'est comme ça que nous pensons, fondamentalement. Si quelqu'un dit, moi, je ne suis pas comme ça, non. Je suis quelqu'un d'humble. Il vient de montrer qu'il ne l'est pas, rien qu'en le disant. D'accord. Parce que personne n'est humble naturellement. On pense d'abord à nous-mêmes. On veut satisfaire nous-mêmes. Quand on a un problème, c'est toujours qui ? Les autres. C'est jamais nous. C'est à cause d'eux que ça ne marche pas. D'accord ? Même quand on est dans le couple, il se passe quelque chose, on a tendance à... à accuser l'autre. J'en vois qui sourit parce qu'il sourit d'expérience. Hein. On a tendance à accuser l'autre. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, on n'est pas humble. On n'est pas humble. Et si on n'arrive pas à saisir cela dans notre esprit, on est des vecteurs de division. Parce qu'on va croire qu'on est comme il faut et qu'on n'a pas besoin de changer. Il y a un passage dans Ésaïe où il dit, tu dis en ton cœur, moi, rien que moi. Voilà comment on réagit. Moi, rien que moi. Et tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on fait, nous ne sommes pas humbles. Et nous avons souvent une haute opinion de nous-mêmes. Sinon, l'Écriture ne nous demanderait pas de ne pas avoir une haute opinion de nous-mêmes. Le Saint-Esprit ne perd pas son temps dans des choses qui ne sont pas utiles. Romains chapitre 12, verset 3, l'apôtre Paul dit, « Je dis à chacun de vous Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes d'humilité, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Donc ça, c'est l'antidote que Paul donne. Mais comment il caractérise cette humilité ? Il dit que chacun de vous, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Autrement dit, l'humilité, quand elle existe, elle change notre perception des autres. Elle change notre perception des autres. L'orgueil, l'égocentrisme, l'ambition égoïste propre à notre cœur nous font mépriser les autres. Tant notre opinion et nous-mêmes avons de la valeur. Mais quand l'humilité remplit le cœur, de manière surnaturelle, chers frères et sœurs, bien, elle permet de voir les autres au moins tels qu'ils sont. Et en tout cas, de les considérer attentivement, parce que c'est ce que le passage dit ici, et de les estimer au-dessus de nous-mêmes. Alors, bien sûr, certains textes traduisent de les regarder plus excellents que soi-même, ou meilleurs que soi-même. Il ne s'agit pas d'être dans le déni de réalité. Hein. Sous prétexte d'humilité, je ne dirais pas à ma femme, par exemple, tu es meilleur que moi en mathématiques et en physique et en chimie. C'est pas vrai. C'est un mensonge si je dis ça. Oh, je suis homme, tu sais, chérie, non, tu es meilleur que moi en maths, en physique. Je sais qu'elle ne l'est pas. D'accord ? De même, elle ne pourra pas me dire, oh, tu sais, tu es meilleur que moi au piano, à la musique, etc. C'est du mensonge. Ça, c'est le déni de réalité. Et donc, quand il dit de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, en étant meilleur que nous-mêmes, ça ne veut pas dire que je suis rien, toi tu es tout. C'est pas ça qu'il est en train de dire. D'accord ? Et donc, l'humilité ne consiste pas à renverser la réalité des choses. L'humilité ne consiste pas à être dans le déni. Mais l'humilité consiste à considérer les autres comme au-dessus de nous, dans la considération que l'on a pour eux-mêmes. L'humilité n'a pas affaire avec ce que les autres sont, mais il a affaire avec comment je les considère. C'est ça que l'apôtre Paul souligne ici. L'humilité consiste à estimer digne de tout ce que j'estime digne pour moi. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire tout ce que j'estime est bon et que je dois recevoir, eh bien, l'humilité me pousse à considérer que c'est bon aussi pour eux et que je dois le chercher pour eux. Ici. Donc, ils doivent être dignes de mon temps, dignes de mes visites, dignes de mon argent, dignes de mes prières, de mon hospitalité, dignes que je passe du temps avec eux, dignes que je les appelle au téléphone, etc. Dignes que je fasse tout pour eux. Dignes que je souffre pour eux. Dignes que je me sacrifie pour eux. C'est ça que ça veut dire, l'humilité. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, hein, je renverse les choses et puis je fais une croix sur ce que je suis. Et puis je dis que je suis ça alors que je suis pas ça. Ça n'a rien à voir. Ça c'est de la folie. D'accord. L'humilité consiste à chercher à rendre les autres dignes de tout ce que je peux faire pour eux. Et puis l'apôtre Paul donne un deuxième tremplin ici après l'humilité. Il parle de la préoccupation que l'on doit avoir des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quelqu'un a dit, si on nous montre une photo de classe, imaginez, on prend votre photo de classe. Allez, vous avez plus que 30 ans. On va prendre ceux qui ont plus que 30 ans. Même les plus jeunes. Vous avez votre photo de classe quand vous étiez au CP. Il dit, quel est le premier visage que vous cherchez sur le papier? Vous ne dites pas, oh, je me souviens, j'avais un copain, il était très gentil. Où est-ce qu'il est sur la photo? Non, le premier visage que l'on cherche, c'est le nôtre. Hein? Où est-ce que je suis? Hein? Ah, je suis là! Regardez, c'est moi. D'accord? C'est ça qui nous motive le plus, n'est-ce pas? Nous-mêmes, nous sommes préoccupés par nous-mêmes, par nos propres intérêts. Mais la volonté de Dieu pour nous est que nous nous préoccupions les uns des autres et que nous soyons tournés vers les autres. Regardez comment il dit que chacun, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il semble même que dans certains textes, il n'y a pas le mot aussi, mais en tout cas, bon, en tout cas, ici, hein, on doit considérer les intérêts des autres. Et le verbe considérer veut dire prêter une attention particulière aux besoins des autres. Alors, bien sûr, pour cela, il faut que les autres soient accessibles, mais il faut que moi, je m'oublie aussi pour que je puisse me tourner vers les autres. Tout est permis, disait l'apôtre Paul, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. C'est-à-dire, et il, ça veut dire que je ne dois pas dire à quelqu'un, il faut que tu cherches mon intérêt. Si je dis ça, je suis en train de chercher quoi? Mon intérêt. Mais je dois chercher l'intérêt de l'autre. Mon souci doit être de chercher l'intérêt de l'autre. C'est l'exhortation ici. Que chacun, il dit que chacun ne recherche pas son propre intérêt, mais que chacun recherche celui d'autrui. Donc moi je cherche celui d'autrui et autrui cherche mon intérêt. Et si on agit ainsi, personne n'est oublié. Personne n'est oublié. Et notez que l'apôtre Paul dit que c'est chacun de vous qui doit le faire. Il ne dit pas que c'est une catégorie de personnes dans l'Église qui doit le faire. Chaque individu, chaque chrétien, chaque frère et sœur dans l'Assemblée doit avoir le souci des autres. Chacun doit être tourné vers les autres. C'est ce que la parole nous encourage à faire ici. Et si nous faisons cela, eh bien, personne ne sera oublié. Posons-nous les questions. Comment est-ce que nous prenons soin les uns des autres? Comment est-ce que nous pensons aux besoins des uns des autres? C'est notre responsabilité pour maintenir l'unité. Parfois, on peut dire, ah, cette église, elle n'est pas unie. Ah, il manque ceci. Ah, il manque cela. Peut-être, peut-être. Mais peut-être nous avons une responsabilité parce que nous n'avons pas été ce que la parole de Dieu nous commande d'être. Soit dans nos foyers, soit dans notre entourage avec nos enfants, soit dans l'église. Donc pour terminer, chers frères et sœurs, quelques mots de conclusion. On voit ici d'abord, premièrement, la nécessité de l'évangile pour tous. Ici. Parce que l'apôtre Paul insiste sur les relations, les expériences d'union avec Christ, premièrement. Ça, c'est le point de départ, c'est la base, c'est le fondement sans lequel il n'y a rien pour l'enfant de Dieu, mais aussi pour celui qui n'est pas à Christ. Rappelez-vous que quand il a commencé à parler de cette unité, chapitre 1, verset 27, il a dit qu'il faut se conduire d'une manière digne de l'Évangile, et puis il donne les spécificités de cette conduite, et il dit en même temps que cela sera une preuve de salut pour ceux qui croient en Christ, mais de perdition pour ceux qui ne croient pas en Christ. Donc, quelque part, c'est un appel aussi à venir à Jésus-Christ et à se tourner vers lui. Mais deuxièmement, je voudrais dire que nous devons être sensibles au risque de division. Et nous devons être conscients que nous pouvons être chacun, un vecteur potentiel de division dans l'Église. Et que le diable utilisera forcément la moindre faille pour créer la division entre les enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons rester conscients. C'est pour ça que l'apôtre Paul exhorte les Philippiens à être attentifs à la manière avec laquelle ils considèrent les autres, qu'il y a tous ces détails. Parce que Le diable cherche, la Bible dit qu'il est comme un lion rugissant qui cherche qui il va dévorer. Troisièmement, l'unité, c'est l'affaire de tous les croyants de l'Assemblée. Tous, nous devons travailler activement à l'unité. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, l'apôtre Paul disait aux chrétiens que vous devez vous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a des efforts à faire pour que l'unité puisse être conservée. Et l'apôtre dit que chacun de vous, que chacun de nous, individuellement, participe activement au maintien et à la conservation de l'unité. Ici. 1 Pierre 5,5 disait « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. » Tous dans vos rapports mutuels, donc l'humilité qui est le ferment de l'unité, nous sommes appelés à manifester de telles relations. Et puis, quatrièmement, je dis que l'unité spirituelle n'est pas l'uniformité, mais la conformité à Christ. L'unité spirituelle, ce n'est pas d'être comme, que chaque chrétien se ressemble comme deux gouttes d'eau. Quand on a vu un, on a vu l'autre. Ce n'est pas ça que la parole nous demande. Mais elle demande d'être conforme à l'image de Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, « Ayez en vous les mêmes sentiments. » Et après, il ajoute, « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Donc, dans cette unité, ici, ce qui est recherché, cette unité de sentiment, de mentalité, ce qui est recherché, c'est la conformité à Christ. Si chacun, nous cherchons à être conformes à Christ, si nous le laissons agir en nous pour nous transformer à son image, eh bien, nous pourrons vivre une véritable unité spirituelle. Et puis, dernièrement, c'est-à-dire que la conduite digne de l'évangile de Christ se traduit par un intérêt profond pour les autres. La conduite digne de l'évangile de Christ se traduit par un intérêt profond pour les autres. Ce qui ressort de l'exhortation de Paul ici, c'est que l'évangile correctement vécu tourne inévitablement chaque croyant vers les autres en le détournant de lui-même. C'est important ici. L'apôtre Paul dit « Regardez les autres, considérez l'intérêt des autres » ici. Il dit ce qui est important ici, c'est pas, il ne dit pas que vous connaissiez la doctrine, tel ceci, tel cela, comment se passe. Il ne dit pas que c'est ça qui est important. Il dit, voilà, l'évangile, vivre d'une manière digne de l'évangile, c'est vivre dans l'unité. L'unité ensemble face à l'extérieur. Et parfois, on peut être unis face à l'extérieur. Un peu comme quand il y a des catastrophes, les inondations qu'il y a un peu partout en France. Parfois, qu'est-ce que vous voyez à, j'ai vu des gens qui ont leur maison submergée avec l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Toute la commune se dresse comme un seul homme, uni, pour affronter cette catastrophe climatique. Mais quand les temps de paix sont là, je suis sûr que les voisins entre eux, ils ont des difficultés. Hein. Ce n'est pas l'unité. D'accord? Celui-là, il parle contre celui-ci, celui-là, il parle contre celui-là, etc. Et je crois que dans l'Église, ça peut être aussi la même chose. L'apôtre Paul dit, il faut être uni contre l'adversaire extérieur. Et ça, parfois, on sait faire, on se serre les coudes, on va distribuer, on va témoigner, on va se dresser s'il y a même parfois une erreur doctrinale. Mais parfois, il y a une manière par laquelle le diable agit et on le laisse faire, on ne le voit pas. C'est à travers chacun individuellement, dans l'attitude de notre cœur, dans nos pensées, dans ce que nous pensons de nous-mêmes. Et il s'infiltre par là. Et là, nous avons une haute opinion de nous-mêmes, etc. Et nous ne voyons pas que la division arrive par ce biais-là. Donc, autant on peut se dresser quand c'est visible et c'est manifeste, autant on peut être aveugle lorsque c'est subtil et puis que ça passe individuellement par chacun d'entre nous. Et donc Paul dit ici que la conduite digne de l'évangile de Christ se traduit par un intérêt profond pour les autres. Comment est-ce qu'on peut lutter contre cet axe de division, eh bien, c'est en étant tourné vers les autres, dans l'amour. Quelle place les autres, tous les autres, ont-ils dans ma considération? Quelle place dans ma pensée? Quelle place dans mes sentiments? Quand je pense à quelqu'un, un frère, qu'est-ce que je pense de lui, honnêtement? Je ne le sens pas trop, lui, il est... Qu'est-ce que je pense de lui, honnêtement? Est-ce que je cherche la compagnie des frères et sœurs? Est-ce que je me soucie de leurs besoins? Ou est-ce que c'est moi, tout seul, une fois que je suis au culte, c'est bon, c'est fini? Les autres, comme quelqu'un m'a dit une fois que je suis avec Dieu et avec le pasteur, le reste... C'est pas ça que l'apôtre Paul demande ici. Il dit, chacun, on doit être tourné vers les autres et les aimer. Ce n'est pas la capacité à témoigner et à prêcher, ni la somme de connaissances bibliques qui détermine la marche digne de l'Évangile, mais c'est l'amour que je porte aux autres dans ma pensée et dans mes actes. Et c'est exactement ce que Jésus dit. Quand il dit à ses disciples, « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Lorsque vous réciterez le Deutéronome par cœur, le Pentateuque par cœur, non. Lorsque vous connaissez... Non, il dit, tous sauront que vous êtes mes disciples lorsque vous avez quoi? De l'amour les uns pour les autres. Une marche digne de l'Évangile, chers frères et sœurs, nous pousse, vous et moi, à nous tourner les uns vers les autres, à nous oublier nous-mêmes, à ne pas faire de nos pensées, de notre opinion, ce qui est le plus important, mais à faire de l'autre et de... ces considérations, ce qui est le plus important. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer dans les caprices de tout le monde, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que je dois être animé d'un esprit qui aime, qui écoute, qui prend soin, qui recherche les besoins les uns des autres. Que le Seigneur nous aide. Je relis ces versets pour terminer, qu'ils soient bien dans nos pensées. Si donc il y a quelques consolations, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Que Dieu bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te demandons de nous aider, de nous conduire. Merci pour ta parole et pour ces réalités que nous expérimentons en toi. Tu nous as aimés, tu as manifesté ta miséricorde envers chacun d'entre nous. Tu nous as remplis de ton esprit afin que nous formions un seul corps et nous sommes tous membres les uns les autres. Nous te remercions pour toutes ces vérités qui sont si merveilleuses. Mais nous te prions que tu nous rendes conscients de la responsabilité qui est la nôtre, de vivre d'une manière digne de cet évangile, de ton évangile. Donne-nous de rechercher véritablement cette unité en nous tournant vers les autres dans une attitude d'amour. Donne-nous, apprends-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres comme nous devons le faire. Et tu sais que naturellement, ces choses ne sont pas en nous. Nous avons besoin de la direction, de la puissance surnaturelle de ton esprit afin d'agir en nous et de nous pousser, de nous détourner de nous-mêmes pour nous pousser vers les autres. Nous voulons confesser bien souvent notre manque dans ce domaine et combien nous avons besoin, chacun ici dans cette salle, combien nous avons besoin d'apprendre à nous appuyer davantage sur toi. À considérer, à nous considérer davantage, à chercher davantage les besoins des uns et des autres. Nous savons que ce que tu nous commandes dans ta parole, tu nous donnes par ton esprit la capacité de le faire. Et c'est pour cela que nous te prions en te demandant, viens à notre secours. Amen.